Le masque et la plume. Après la remise des prix du masque à l'attachement, dossier 137 et Sirat, nous renouons avec l'actualité des films sortis en salle ces dernières semaines. Au programme, plusieurs comédies, Alter Ego, de Nicolas Charlet et Bruno Lavène, dit Nicolas et Bruno, le premier film du Britannique Harry Lytton qui s'intitule Pillion, histoire d'amour sadomasochiste dans l'univers des motards gays, et Is This Thing On, comédie de remariage, signée Bradley Cooper. Il sera aussi question de Marty Supreme, de Josh Sabdi, avec Timothée Chalamet, et de Couture, d'Alice Vinocourt, avec Angelina Jolie. Pour en débattre, les critiques en présence sont Muriel Joudet du journal Le Monde, Christophe Bourseiller du magazine Transfuge et de France Inter, Charlotte Lipinska de Télématin et Pierre Murat tel qu'en lui-même. Des critiques, des cinémas, des publics, des micros, bonjour, bienvenue, voici Le Masque. Dans le courrier de la semaine, la parole est à la Défense pour Gourou de Yann Gozlan avec Pierre Ninet dans le rôle principal. Delphine Blanchard trouve par exemple le scénario bien ficelé. Selon elle, il pose habilement des questions politiques sur le sujet de la manipulation. Un peu de biscuit, écrit cette auditrice au cerveau disponible, qui ont subi 20 minutes de pub avant que le film ne commence. Laurent Frayon de Rennes estime que le propos et le style du film traitent avec justesse d'un sujet très contemporain, celui de la suggestion à un homme providentiel. Pour Odile Louise Roir et pour David Héranval Mallet, Paolo Sorrentino est un réalisateur providentiel. Cette auditrice et cet auditeur ont adoré La Grazia, magistrale réflexion, je cite, magistrale réflexion existentielle sur la conscience, la responsabilité et le pouvoir selon l'une, mouvement de caméra d'une souplesse hypnotique, cadrage sublime, plaisir de cinéma de tous les instants selon l'autre. En revanche, depuis Genève, Giacomo Di Noto, qui est italien, demande « Sauvez-nous de Sorrentino ». Lui qualifie La Grazia d'exhibition publique, d'onanisme stylistique qui prend le spectateur en otage pendant plus de 2 heures à coups de scénarios prétentieux sans aucune retenue. Vous êtes plusieurs à enjoindre public et critique d'aller voir ou revoir Le Chant des Forêts, film césarisé de Vincent Munier, sorti mi-décembre et toujours à l'affiche de 239 salles partout en France et qui a déjà réuni 1 300 000 spectateurs. Enfin, vous m'envoyez vos critiques de Marty Supreme de Josh Safdi avant même qu'on en débatte aujourd'hui. Alain Tortosa de La Roche-Blanche dit être encore affligé, 24 heures après avoir vu le film, précise-t-il, par la pauvreté de la mise en scène de cette histoire rocambolesque. Catherine Devin de Lyon en est sortie fatiguée et Ghislain Dehaut de Cigy résume « Prenez l'individu le plus désorganisé de votre entourage, celui qui parle sans respirer, qui juxtapose les idées sans les hiérarchiser. » Maintenant, imaginez être enfermé dans son cortex pendant 2h30. Le film ne raconte pas une histoire, il la déverse. On ne traverse pas un film, on subit un flux. Marty Supreme ne construit rien, il accumule. Qu'en pense la tribune ? Réponse après la virgule. Marty Supreme, donc, de Josh Safdie, dont c'est la première réalisation en solo, sans son frère Benny. Je resitue rapidement le film. Nous sommes dans le New York des années 50. Marty Mauser est un jeune juif prolétaire prêt à tout pour accomplir son ambition, devenir champion du monde de ping-pong, sport dont tout le monde se fout aux États-Unis. Les championnats auront lieu au Japon et le compte à rebours est lancé pour que Marty puisse se payer un billet d'avion. Il va contourner la désapprobation familiale, multiplier les arnaques, tenter de soutirer des dollars à une star de cinéma ou à son milliardaire de mari, etc., etc. Marty est donc lancé dans sa course, un escadron d'emmerdement va l'en dévier, et Rachel, qui l'a mise enceinte, bien que mariée à un autre, est dans sa foulée. Le scénario est inspiré des mémoires du pongiste Marty Riesman. Comme vous le savez, le rôle-titre du film est interprété par Timothée Chalamet, sont aussi à l'affiche Odessa Azayon, formidable, je crois, dans le rôle de Rachel, Abel Ferrara et Gwyneth Paltrow. Mon tout est en lice pour 9 Oscars. Charlotte, tu es d'accord avec les auditeurs qui n'ont pas aimé le film
Non, pas du tout, mais en même temps, je comprends un peu ce qu'ils veulent dire, parce que en effet, on se dit au début du film, mais comment je vais tenir 2h30 avec ce petit con prétentieux, tête à claque, qui ment à tout le monde, qui embrouille tout le monde, qui est assez insupportable. Et alors, curieusement, je trouve qu'il y a une magie qui opère, c'est-à-dire que ce petit gars, il n'a pas d'argent, il en trouve, il n'a pas de pouvoir, il accepte de se faire humilier pour obtenir ce qu'il veut. Rien n'arrête son ambition et c'est même pas une question d'être un bulldozer, c'est un petit roquet qui est accroché comme ça à notre pantalon et qui ne va jamais rien lâcher. Et là où je trouve le film, moi, assez époustouflant, c'est dans sa vivacité. C'est-à-dire que le film épouse constamment le rythme de ce personnage qui court, le film court avec lui, c'est une fuite en avant, on croit filer tout droit, et ben ça bifurque, c'est un peu comme une balle de ping-pong. C'est-à-dire que il y a des sous-intrigues et ça va rebondir à des endroits où on ne l'attend pas du tout. Et épaulé là par des seconds rôles, tu citais Abel Ferrara, qui est absolument génial dans un hôtel. Il y a une scène avec une baignoire qui est vraiment hilarante. Gwyneth Paltrow, qu'on est quand même très heureux de revoir dans cette comédienne qui espère revenir sur le devant de la scène, je la trouve géniale. Les dialogues sont percutants. Et alors, à l'arrivée, 2h30, je ne les ai pas vus filer. Moi, je trouve que le film était tendu de bout en bout et ça a été un vrai plaisir, avec en plus un acteur qui m'a jamais passionné, Timothée Chalamet. Pour moi, il avait le charisme d'une huître. Et là, tout d'un coup, il me subjugue.
Muriel, plaisir partagé ?
Non, alors que moi j'aime beaucoup les premiers films des frères Safdie et ils ont toujours fait ça, et même quand ils ont commencé à faire des gros films hollywoodiens comme Uncut Gems, il y a toujours cette idée du sur-régime permanent et une sorte d'accumulation comme ça de catastrophes qui s'abat sur un héros. Et là je trouve que ça fait système, c'est-à-dire que moi je trouve que rien ne fonctionne dans le film parce que c'est un peu cette Safdie touch, mais finalement qui est totalement artificielle, qui fonctionne jamais. Et surtout le problème que j'ai avec le film, c'est que qui n'est pas dénué de talent, hein, il y a des trucs assez beaux, mais je le trouve trop petit malin, et t'as utilisé le mot petit con. Alors pour moi, il y a vraiment à tous les étages, j'ai trouvé que c'était un film un peu petit con, parce que il y a un égo trip de la part de Josh Safdie, il y a un égo trip de la part de Timothée Chalamet, et on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se trouver, à se coordonner, et que Timothée Chalamet finit par gagner contre le film, c'est-à-dire qu'il prend tellement de place dans le film que finalement rien n'est regardé. Le ping-pong, j'ai jamais vu du ping-pong aussi mal filmé, c'est-à-dire que on n'y croit pas. Et c'est un problème, on n'y croit pas. On n'y croit pas au ping-pong. Il y a quand même un problème avec les personnages féminins, je trouve qu'ils ne sont pas aussi regardés. Et en fait, le film justifie le fait qu'il ne regarde rien parce qu'il est en sur-régime. Et même, ça va jusqu'à la fin, l'apothéose au Japon, où là, on frise quelque chose qui, pour moi, est raciste. C'est-à-dire que ces personnages, ce pays, ces Japonais ne sont pas regardés. Et c'est comme
Parce que c'est le héros, tu dis qu'il ne regarde pas les personnages féminins, mais parce que Marty Supreme ne les regarde pas. Il les utilise, il s'en sert.
Justement, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le regard du cinéaste ne doit pas être celui du héros. Voilà. Et pour moi, là, j'ai un peu une sorte d'accumulation.
Et quand le rythme est rapide, on n'a pas le temps de regarder, de s'attarder,
non,
c'est pas du Bergman.
Non, parce que justement, c'est des vrais arguments. Il y a deux femmes qui n'existent pas dans le film.
Ah, moi, je ne suis pas d'accord.
Et le film est un peu gonflé de toute son arrogance et oublie de regarder ce qui est son sujet, en fait.
Pierre ?
Non, mais moi, je trouve que d'abord, c'est un scénario que je trouve, mais magnifique. Ça me rappelle vraiment les grands scénarios qu'on faisait il y a encore 30 ans, Scorsese, Schatzberg, Paul Thomas Anderson. Enfin, il y a une intelligence dans la façon de mener l'action, avec brusquement quelquefois le flashback tout court sur les camps de concentration.
Ah non, ça c'est horrible.
C'est magnifique.
C'est horrible ça.
C'est magnifique. C'est une scène absolument magnifique où il y a le miel qui joue un rôle absolument déterminant. Je trouve ça là aussi d'une audace. On parlera d'un film audacieux tout à l'heure. Mais vraiment, c'est original. La mise en scène. Moi, je suis pas fan de la mise en scène. Je suis d'accord que les noms que j'ai cités tout à l'heure, Paul Thomas Anderson et Schatzberg, faisaient peut-être des films un peu meilleurs. Mais c'est d'une efficacité, d'une rapidité. Et alors, moi, cette grande endive de Timothée Chalamet, sauf chez Woody Allen où il était bien, là, pour une fois, je le trouve extra. On est avec lui et c'est le héros américain juif typique qui veut réussir et qui réussit. C'est extraordinaire.
Timothée Chalamet Christophe. A toujours été génial. Il était formidable dans Person Unknown où il incarnait Bob Dylan. Et là, il est à nouveau formidable. Il est. Mais en fait, ce n'est pas un film sur le ping-pong. C'est un film sur la jeunesse. C'est un film sur l'élan de la jeunesse. Et il y a un rythme de dingue, un rythme de cavalcade absolument dingue parce que c'est un film sur cet élan vital de la jeunesse. Ça commence avec des spermatozoïdes qui courent partout et ça continue dans une espèce de folie furieuse avec un scénario absolument formidable. Moi, j'avoue que j'ai été très emballé par ce film parce que c'est rare de sortir d'un film au bout de 2h30 en étant en forme. C'est-à-dire en disant « Ah, qu'est-ce que je me sens bien ? Qu'est-ce que je me suis marré ? Qu'est-ce que ça a bougé ?» Il y a des rebondissements à chaque instant. Et alors, je trouve que tu as dit le mot juste. Je crois que c'est un sommet de l'humour juif new-yorkais. C'est ça le personnage. On est dans un humour juif new-yorkais, mais porté à son zénith. Et c'est vraiment extraordinaire. Je voulais dire un mot sur Darius Kondji, le chef opérateur. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et aussi Ronald Bronstein, co-scénariste et monteur. Parce que le montage de ce film est extraordinaire. Il y a beaucoup de films qui sortent sur le sport. Mais là, on transcende le sujet du sport pour aller vraiment vers quelque chose de, moi, j'ai trouvé très fort. Voilà.
Donc. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre le micro pour participer au débat concernant Marty Supreme de Josh Safdie? Oui. Bonjour, monsieur.
Je ne suis pas d'accord avec la majorité des critiques. Je trouve ça comme un des pires films que j'ai vus depuis des années. Là, il y a une bande sonore qui est absolument envahissante et pénible. La mise en scène, c'est de l'esbrouf avec des survitaminés et des gros sabots. Je ne sauverai que les parties de ping-pong, de tennis de table, mais on peut voir les frères Lebrun, c'est encore mieux.
Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre pour Partie Supreme ? Oui, bonjour.
Bonjour. Moi, c'est pas forcément un film qui m'a beaucoup plu. En effet, on parle d'un scénario qui va à 100 à l'heure. Je trouve qu'il y avait des opportunités qui ont été manquées à creuser. L'histoire, par exemple, de la couleur de la balle de ping-pong, l'adversité avec le genre japonais, je trouve que c'était vraiment un manque à gagner dans le film. Et j'ai trouvé aussi, ce qui m'a déçu, c'est que vous parlez de petits cons avec Marty Mauser. En effet, on a un sentiment assez égal à l'égard du personnage pendant tout le film, à part un petit peu à la fin. Mais voilà, j'ai trouvé que ça c'était trop constant.
Une autre intervention concernant Marty Supreme ? Non, il n'y a pas d'autres bras qui se lèvent. Donc après Marty Supreme, changement de registre grâce à Pillion, premier film du Britannique Harry Lytton qui s'était fait remarquer à Cannes avec le prix du meilleur scénario de la sélection Un certain regard et avec l'apparition de la star suédoise Alexander Skarsgård en cuissarde. Colin Harry Melling à l'écran est agent de surveillance sur la voie publique. Sa maman lui organise des rendez-vous au pub avec des garçons, en espérant qu'il trouve un fiancé, voire qu'il se mette en ménage. Mais Colin tombe sous le charme et sous la coupe d'un motard tout de cuir vêtu. Il se prénomme Ray et le sculptural Alexander Skarsgård l'incarne. Colin découvre alors bien des choses, l'univers des motards gays et une relation amoureuse sadomasochiste avec Ray, donc dans le rôle du dominateur. Je précise que ce mot « pillion », qui donne son titre au film, désigne la place du passager sur une moto. Le scénario de cette comédie romantique singulière est inspiré d'un roman d'Adam Marsh-Jones intitulé « Box Hill » et le film est interdit au moins de 16 ans. Mais tu as plus de 16 ans, Pierre.
Oui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce film, mais pour une raison, c'est que c'est un film... encore une fois, insolent. Dans un cinéma que je trouve de plus en plus bienséant, tranquille, pépère, voilà quelqu'un qui ose montrer cette histoire et surtout la façon dont il la montre. Parce que la plus grande insolence pour moi de ce metteur en scène, c'est de montrer de façon absolument naturelle des rapports qui, théoriquement, ne le sont pas. Mais dès les premières images, les parents qui sont plutôt contents de voir son fils faire ça, et jusqu'au... Et quand on... la découverte...
C'est-à-dire que l'homosexualité n'est pas un sujet dans le film.
Non, c'est
pas...
ça. Mais même les rapports qu'il entretient
avec rapports sadomaso.
L'homme qui lui plaît de plus en plus, c'est montré de façon normale. Et ben c'est comme ça que ça se passe. Et en même temps... Derrière tout ça, si j'ose dire, il y a le pillion, le passager, okay. Il y a une histoire qui est finalement très très banal, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui tombe réellement amoureux d'un autre être et l'autre qui a tellement peur du sentiment que la moindre caresse lui paraît le comble de l'indécence. Et donc, cette espèce de pudeur classique presque du sentiment, avec une mise en scène absolument simple, claire, nette et qui en devient totalement audacieuse, pour moi, ça en fait un des très bons films de l'année.
Et tu dis ça d'une voix si douce. Pudeur des sentiments et crudité des scènes aussi.
Ah oui, oui, c'est moins de 16 ans. Hein, voilà.
Charlotte.
Franchement, le film est dingue. Moi, ça fait très longtemps que j'avais pas été scotchée comme ça par un premier film. Il est très jeune, ce réalisateur. Et Pierre, tu parles d'insolence, ou d'audace. Mais ce qui est fou, c'est que oui, on peut y voir de l'insolence et de l'audace, mais c'est filmé de manière tellement apaisée,
oui,
avec une telle douceur, comme presque, enfin, une comédie romantique assez calme, que le film est très très surprenant. C'est-à-dire qu'il y a un mélange un peu comico-burlesque, même dans les scènes de BDSM. Ça m'a un peu fait penser au film Kika aussi, qui est sorti il y a quelques mois, où il y avait aussi ce ton un petit peu décalé par rapport à la crudité des scènes. Le film est totalement maîtrisé de bout en bout, sans jeu de mots, là encore, et surtout porté par deux acteurs. Ouais, il faut quand même y aller, c'est-à-dire que Alexander Skarsgård, qui est une star hollywoodienne, qui s'engage à ce point dans ce film avec Harry Melling, donc pour ceux qui ont vu Harry Potter, il a bien grandi, il est un peu question de baguette magique, mais dans un autre registre, on va dire, et Skarsgård, qui est une espèce de bombasse sexuelle sur pattes,
très
il
sexy.
Vous regarde, on a les yeux qui crient braguette, c'est complètement dingue, et la tension se fait sur des silences, sur un petit regard. Il y a une économie de dialogue, parce que quand même, il parle très très peu. On comprend tout pour que, in fine, après un baiser qui vous bouleverse, le film interroge notre capacité quand même à aimer, à donner, recevoir des sentiments. Et le personnage principal, Colin, dit à un moment « J'ai une aptitude à la dévotion
».
Cette phrase revient, elle est très belle. Ayons une aptitude à la dévotion pour ce film.
Oui, alors c'est pas mon cas.
Christophe,
mais c'est pas ça. C'est à vrai dire, je trouve.
Tu
que
viendrais
ce...
pas en pique-nique si. Au bord de la rivière avec ces jeunes garçons.
Si, justement, mais je t'explique.
Mais pas avec un collet de chien autour du cou.
Pour moi, il y a deux films en un. D'abord, il y a une première partie qui est une sorte de docu-fiction géniale sur les bikers gays sadomaso de la région de Londres. Voilà, pour résumer les choses. Alors là, on est vraiment dans le hard. C'est assez fascinant. On n'est pas très loin d'un film.
Enfin, je précise quand même que c'est pas un film porno.
Non, c'est pas un film porno. On est dans la crudité absolue, la dureté, la violence.
On ne voit pas grand-chose, Christophe.
Pas tellement la violence.
Il y a du consentement partout dans cette histoire.
Alors, on va être d'accord. BDSM, ça veut dire bondage, domination, sadomasochisme. Ça veut pas dire les petites fleurs. Et c'est justement ça le problème.
Mais pourtant, ils vont en pique-nique.
L'originalité du film, c'est que c'est des petites fleurs.
Alors, je suis arrivé au bout d'une phrase. Parce que c'est justement ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a d'abord un film qui, moi, m'a fait penser au grand Scorpio Rising de Kenneth Anger, sur justement cette communauté de bikers sadomaso. Mais tout à coup, ça bascule dans la blouette nunuche. Tout à coup, c'est « Ah, mon chéri, je vais te faire ton petit déjeuner. » Tout
parce
à coup, c'est « Je t'aime, on vient à la main. »
Mais au contraire.
Et là, Je me suis ennuyé, il veut briser le jeu du jeu parce que moi je voulais que ça cogne, mais comment ça devient une comédie romantique, pourquoi est-ce nunuche?
L'amour, c'est nunuche.
Bah, là en l'occurrence, quand l'amour ça démarre à coup de fouet et à coup de poing, c'est un peu nunuche. Quand ça se termine, on va aller manger.
Alors non, mais là je suis pas d'accord, il y a ni coup de fouet ni coup de poing, c'est pas vrai, Christophe. Il n'y a ni coup de fouet, ni coup de poing. Je regrette. Il n'y a aucune violence physique.
Muriel, en casque bleu, peut-être.
Ouais,
tu vas nous faire passer le sadomasochisme pour l'école des fans.
C'est intéressant, ce retour du sadomasochisme au cinéma depuis 50 nuances degrés. Et en fait, si vous n'avez pas aimé Hurlevent, qui de fait est un très mauvais film, je pense que Pillion est le vrai Hurlevent de l'année.
C'est audacieux.
Ouais, mais je pense que vraiment, parce qu'il y a un truc de cette idée du finalement du romantisme sexuel, l'idée que c'est un personnage en fait qui est en quête de règles, qui est en quête d'un maître sur qui régner, comme dirait Lacan. Et en fait, il y a une forme de, c'est une quête de transcendance. Et c'est pour ça que c'est pas de la pornographie. C'est-à-dire que la pornographie, c'est quand on filme du sexe.
Ah non, c'est pas porno du tout. T'as raison.
Sans y mettre du sens. Là, ça a un sens parce que c'est une quête. C'est quelqu'un qui, et voilà. Et je pense que fondamentalement, tout le monde rêve d'avoir un maître qui lui dit viens à 18h. Voilà. Il y a un truc. On est tellement libre que.
Lèche-moi les pieds.
On est tellement libre que. Voilà, il y a un fantasme du cadre et le film parle de ça et c'est pour ça qu'il nous dit aussi ce film le sexe n'est jamais le problème au cinéma, c'est toujours le regard qu'on porte sur le sexe et comme vous l'avez dit, il y a une douceur, on pourrait en voir plus en fait, on pourrait voir beaucoup plus de parties génitales, ça poserait pas problème parce qu'en fait c'est les regards qui comptent, c'est comment un cinéaste regarde les choses et là il y a une telle douceur et un tel sens qui est apporté à chaque scène et surtout le sentimentalisme est évité puisque voilà, on va pas raconter la fin mais le film n'est jamais mièvre et il faut pas sortir du cadre, ça c'est là un peu le contrat sadomaso est tenu jusqu'au bout et c'est très beau cette idée de recherche de maître et je pense que ça coïncide avec un fantasme qu'on a tous dans nos têtes vu l'époque et vu ce que sont devenus les mœurs. Le film vraiment touche très juste sur le sujet.
Est-ce qu'une personne du public souhaite participer au débat pour Pillion de Harry Lighton? Non, je ne vois aucun bras se lever. Donc après Pillion, la deuxième comédie du programme est française. Oula. Elle est signée du duo de cinéastes Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, dit Nicolas et Bruno, duo qui s'est fait connaître à la fin des années 90 sur Canal+, avec le programme Messages à caractère informatif. Leur nouveau et quatrième long-métrage s'intitule Alter Ego, avec Laurent Lafitte deux fois, puisque le comédien récemment césarisé y joue deux personnages. Lafitte est d'abord Alex Floutard, un homme qui vit des jours heureux avec son épouse Nathalie, jusqu'au jour où Axel et Tatiana emménagent dans le pavillon mitoyen. Alex est très troublé, voire totalement déstabilisé par ce nouveau voisin, puisqu'Axel est son sosie, mais avec des cheveux. Or, Alex est le seul à voir cette ressemblance quasi exacte. Axel, le chevelu, serait une version d'Alex, mais en mieux. Élégant ciné, charme irrésistible, sportif et don pour la guitare. Blanche Gardin joue la femme d'Alex, Olga Kurylenko celle d'Axel et Laurent Lafitte interprète donc les deux, ce qui lui a valu le prix d'interprétation masculine au dernier festival international de comédie de l'Alpe d'Huez. Christophe.
C'est tout sauf une comédie italienne, hein, il faut dire les choses. C'est une grosse comédie surréaliste, loufoque, alors un peu dans l'esprit Canal, on pourrait dire, un peu aussi dans l'esprit des Tuches ou dans l'esprit des Charlots, c'est-à-dire qu'on est dans la grosse comédie.
Alors,
c'est vrai que c'est une histoire qui est un peu sans queue ni tête, mais marrante. Enfin, on rit par moments, c'est assez drôle. Laurent Lafitte est assez formidable dans cette espèce de rôle étrange, de cette gémellité, où ces deux personnages qui s'entremêlent à un moment donné dans l'histoire. Moi, je ferai une mention spéciale pour Blanche Gardin, qui est formidable, je dois dire. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans l'humour Canal, avec peut-être les limites de l'exercice, c'est-à-dire ce côté toujours un peu potache, un peu léger. Et c'est vrai que je terminerai peut-être en disant que j'aime bien l'idée de la COGIP, la société dans laquelle il travaille, qui réapparaît dans tous les sketchs de Nicolas et Bruno. Et je dirais que c'est une comédie potache, mais qui fait un peu passer Quentin Dupieux pour Emmanuel Kant. Vous voyez ce que je veux dire.
Charlotte.
Ce qui est intéressant, c'est que le thème de la dualité au cinéma, ça, c'est là depuis le début du cinéma, mais généralement, c'est pour découvrir la face sombre de soi-même. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et on découvre, c'est cette face noire, et là, c'est tout l'inverse.
C'est là, que c'est, là, il découvre, c'est un double instagrammable.
Absolument.
C'est la vie en mieux.
Et surtout, il découvre que l'autre est la version en mieux, donc que la mauvaise est soi-même. Et en ça, c'est très intéressant, parce qu'on dit que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, ben, on en a l'illustration parfaite avec ce film. Et le fait de se comparer en permanence, qui, en gros, va être le début des embrouilles.
Et qui est un sujet très contemporain.
Totalement. Et moi, j'ai trouvé ce postulat non seulement très drôle, mais surtout tenu jusqu'à la fin. Tu parlais de Quentin Dupieux. Bah, en effet, on dirait un Quentin Dupieux, mais qui aurait un peu bossé son scénario, avec un mélange de registres qui est très étonnant, parce que oui, il y a de la comédie, mais il y a une sorte de thriller paranoïaque, ça dévie vers le film de genre. Et puis Laurent Lafitte, bon bah il est complètement dément dans ce double rôle. Et il y a même une scène où il combat tout seul face à lui-même en l'autre, alors qu'il est un peu compliqué à résumer. Bah on pense c'est le malade imaginaire de Molière, c'est le jumeau de Pierre Richard. Enfin on a tout ça qui nous traverse. Moi je trouve qu'on passe un excellent moment, assez grinçant, assez malaisant parfois. Et moi ma petite mention spéciale c'est à la moustache de Zabou que je trouve irrésistible et à Marc Fraise. On ne parle jamais assez du talent talent de Marc Fraise, qui est quand même un comédien formidable.
Muriel. Mais
moi, je trouve que...
Tu n'as pas aimé la moustache de Zabou.
La moustache, justement, je trouve que c'est à l'image de la vulgarité du film. Soit on prend une actrice avec une moustache, mais on rajoute pas une moustache. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Et je trouve que le film est un peu... Sur les personnages féminins, il est très, très faible. Blanche Gardin, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle joue tout le temps sans y croire. C'est-à-dire, il y a tout le temps une ironie dans son jeu. Et le film, globalement, je trouve, ne croit pas en lui-même. Et ça aurait pu... C'est une super idée qui aurait pu faire un... Je pense qu'il y a un épisode de Twilight Zone qui doit ressembler à ce scénario. Mais pour ce genre d'histoire, il faut que ce soit parfait. Et là, pour moi, on est vraiment dans une sorte d'imperfection télévisuelle. Et il y a trop d'incohérences. C'est-à-dire... Pour juste résumer, au début, on nous dit que personne ne voit la ressemblance entre les deux Laurent Lafitte, et à la fin, tout le monde trouve qu'ils se ressemblent et on les confond. Ça n'a absolument aucun sens.
C'est ça.
À un moment, la science-fiction, c'est sentir un vertige. Il faut que la mise en scène porte le vertige du début jusqu'à la fin. Moi, j'y crois pas, et j'ai l'impression, justement, d'être devant un mauvais sketch de Canal+, et avec tout le monde qui joue d'une manière ironique, comme si personne n'y croyait, ou que tout le monde trouvait que c'était hyper intelligent. Donc, voilà, c'est platement télévisuel pour moi.
Pierre ?
Pendant un quart d'heure, j'ai vu le film comme vous l'avez vu, Charlotte et Christophe, c'est-à-dire, tu as dit, surréaliste, loufoque. Alors oui, je me suis dit, tiens, un type qui croit qu'il est le sosie de quelqu'un, mais il est le seul à le croire, et les autres disent non, je me suis dit, on part sur, en effet, un film paranoïaque, sur le burlesque absolu, enfin... Et puis au bout de 20 minutes, ou une demi-heure, c'est un film où on voit Laurent Lafitte mettre sa moumoute, donc il joue un rôle, puis ôter sa moumoute.
Enfin, on ne le voit pas faire.
On voit que ça, quoi. Pardon, il ôte.
Ne révèle pas.
Mais c'est parce que tu n'as pas de cheveux, c'est pour ça que tu l'as vu, toi.
Je me suis projeté, tu penses bien que je me suis projeté. Non, mais c'est rien. Alors, c'est un peu vulgaire. Blanche Gardin, je la trouve moyenne, comme souvent au cinéma. Autant elle est géniale ailleurs, mais pas au cinéma. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a rappelé les mauvais films où il y a Fernand Reynaud dans les années 50 qui jouait les sosies dans des films nuls, quoi. Enfin, c'est à peu près pareil. Je suis désolé.
L'intervention d'un spectateur ou d'une spectatrice, chevelue ou non, pour Alter Ego de Nicolas et Bruno. Bonjour.
Bonjour. Moi, je suis très partagé sur ce film. Sur la première partie, il y a un côté assez drôle. On pense évidemment à la moustache d'Emmanuel Carrère. Et puis après, sur la deuxième partie, en fait, ça tourne en rond, ça patine. Et sur Laurent Lafitte, en fait, c'est un peu pareil. Alors, il est très drôle, mais au bout d'un moment, il en devient insupportable, voire à claquer, quoi. Et donc, c'est très difficile de tenir le film sur la longueur.
Une autre intervention pour Alter Ego.
Et pourtant, il n'est pas long, le film.
Il commence au bout d'une heure. C'est vrai qu'il y a un truc...
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous me permettez, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement réjouissant et qui, dans sa comédie, tient un tempo comique absolument au cordeau. Et je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une montée en tension, il y a un crescendo de surprises. Ça finit par faire des étincelles et ça termine en explosion. C'est-à-dire qu'il y a une montée qui est absolue. Et en fait, le film démarre sur justement un postulat de base absolument banal. C'est un film à concept qui le tient jusqu'au bout et qui va au bout de sa démarche. Et qui nous fait virevolter toutes nos émotions, c'est exceptionnel. Et en plus, qui tient un propos de fond qui est absolument révélateur de notre génération avec les réseaux sociaux, donc cette comparaison maladive entre nous, entre hommes et entre individus. Enfin, pour moi, c'est une grande comédie française qui, comme les grandes comédies françaises de l'an passé, tient des répliques cultes comme effectuables. Merci.
Merci pour votre intervention. On continue avec...
Il a bien parlé. Hein.
On continue avec la dernière réalisation de l'Américain Bradley Cooper après A Star is Born avec Lady Gaga, puis Maestro, biopic du musicien Leonard Bernstein. Voici Is This Thing On, titre qui mettra notre élocution au défi. Is This Thing On, qu'on pourrait traduire par Est-ce que ça marche ? Et la première réponse est non. Ça ne marche plus. Entre Alex et Tess, mariés depuis 26 ans et parents de deux garçons, ils décident de se séparer et lors d'une nuit d'errance dans les rues de New York, Alex, encore un Alex tiens, pousse la porte d'un comedy club. Pour payer sa bière, il monte sur scène et se lance dans le stand-up. Raconte une blague, demande un spectateur. Je crois que je vais divorcer, dit Alex au micro. Le stand-up devient un refuge pour Alex et un moyen de reconquérir Tess, interprétée par Laura Dern. Alex est joué par le canado-américain Will Arnett, surtout connu jusqu'ici comme voix de doublage de séries ou de dessins animés. Bradley Cooper, quant à lui, s'est réservé le rôle du vieux pote comédien qui pivote. Et avec ce troisième long métrage, il ajoute une comédie de remariage à une filmographie qui s'intéresse décidément beaucoup au couple. Muriel.
Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Bradley Cooper, cinéaste, aussi acteur. J'aime beaucoup le voir au cinéma. Mais c'est un cinéaste sérieux, conséquent, enfin, qui compte. Maestro, c'est vraiment un film magnifique. Et ces trois films parlent de la même chose, du couple, du mariage. Est-ce que ça fonctionne, hein, tout simplement?
Est-ce que ça dure?
Voilà, c'est ça. Alors, c'est un film qui n'est pas exempt de défauts. Moi, pendant une heure, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a une bascule qu'on ne va pas raconter, une bascule que je trouve absolument magnifique. Et le film, en fait, cherche un dispositif, encore un, pour essayer d'attraper le couple et le mariage. Et je trouve que c'est un film, voilà, moi je l'ai vu le lendemain de Marty Supreme, je me suis dit, ah, enfin un film qui a du cœur, qui n'est pas cynique, qui a une âme, quoi, contrairement à l'autre. Bon, voilà, c'était gratuit. Mais ce qui est très beau, c'est cette deuxième partie où, en gros, l'idée, c'est que finalement, ce couple-là se rabiboche parce que finalement, ils sont dans la clandestinité. Et que finalement, dans un monde de divorcés, un couple qui se rabiboche, c'est clandestin. Et il y a des idées comme ça, assez vertigineuses, qui sont autant de biais que je trouve assez inédits. Moi, j'ai jamais vu ça au cinéma, en fait, cette deuxième partie où vraiment, on essaye, en fait, toutes les tactiques pour... Parce qu'on a un idéal, et cet idéal, c'est l'amour éternel, le couple éternel. Et en même temps, le film nous dit... C'est une névrose, il faut peut-être l'abandonner, il faut arrêter avec ce truc dont on reste ensemble pour la vie. Donc voilà, Bradley Cooper, c'est sa névrose, et il nous la montre en tant que telle, et c'est aussi très très beau sur l'amitié, sur la place de l'amitié dans le couple, sur les amis qui se regardent, qui se comparent aussi.
Ça, à qui voilà. On n'ose pas annoncer d'ailleurs
voilà,
qu'on est séparés.
Voilà, parce qu'en fait, ils sont une famille, qui partent en vacances ensemble, il y a plein de choses très très belles malgré les défauts, c'est vraiment un film à voir.
Alors Muriel a dévoilé pas mal de choses du film, si tu pouvais en dévoiler moins Pierre, ça m'arrangerait.
Ah ben je vais rien vous dévoiler du tout. Mais sauf que la comédie du remariage, ce n'est que ce que tu as dit tout le temps.
Mais
depuis
là,
toutes les comédies du remariage, c'est uniquement ça. C'est comment l'annoncer, on ne va pas l'annoncer, est-ce qu'on va se mettre ensemble, et pour être différent des autres, on va se remettre.
Mais là, c'est mis à jour.
Depuis les années 30.
Oui, mais là, c'est réactualisé. Alors, tu vois. Bref, parce qu'il n'y a pas la happy end avec Catherine Hepburn et Spencer Tracy qui t'attend.
Oui,
c'est la comédie du remariage
si
au temps des divorcés.
Si tu me traînes dans ce domaine-là, je préfère Spencer Tracy, Catherine Hepburn.
Donc, tu as beaucoup aimé ça.
C'est un ennui. En fait, c'est du sous Woody Allen. C'est pathétique tellement, c'est du mauvais Woody Allen. Moi, je vais vous avouer quelque chose, je l'ai vu dans un cinéma du centre de Paris, et donc au bout d'une heure, justement, ça doit être la bascule, c'est dommage, mais enfin, je n'en peux plus, donc je suis sorti prendre un café. J'ai pris mon temps.
T'as raté la meilleure scène,
en fait. Ben voilà.
Ok, bon.
Sans doute.
Et tu es revenu
non,
après.
Non, je vous raconte ça parce que c'est significatif. Je suis rentré et quand j'étais parti, il y avait le couple dans un lit qui se réconciliait. Un quart d'heure après,
voilà, il l'a
je
dit.
Suis rentré, ils étaient dans un lit et ils demandaient un conseiller conjugal. En un quart d'heure, il ne s'était donc rien passé.
C'est dans Jane Dillman, il ne se passe rien
c'est
non plus.
C'est une mauvaise foi qui t'honore.
Oui, vous ne pouvez pas savoir.
Christophe.
Est-ce que c'était seulement un café? Moi, j'ai un doute.
Un bon café.
Alors, écoute, c'est une comédie dramatique très fine. Je suis d'accord avec Muriel, c'est un scénario très, très fin. Moi, j'ai été séduit par ce film. Alors, il ne fallait pas le présenter comme une comédie de remariage, parce que tout est dit,
oui,
finalement,
c'est
dès le départ. C'est une comédie très fine sur le destin.
À vos mails.
Sur la complexité du rapport amoureux, avec c'est vrai de très bonnes idées de scénario, notamment le stand-up. Ouais. C'est-à-dire que l'arrivée du stand-up dans ce drame, parce qu'au début c'est un drame, c'est le drame de la séparation, et l'arrivée du stand-up, et là Will Arnett m'a quand même vraiment complètement ébouriffé, parce que c'est un stand-upper pas drôle.
Mais oui,
c'est
ça.
Et ça, faut le faire, arriver à faire du
pas
stand-up
drôle, c'est
pas
raté.
Drôle.
Tout est raté.
J'ai trouvé que c'était vraiment très fin, quoi, ce qui se passe là. Et alors, il y a quand même un truc qui m'a frappé, c'est que c'est quand même, quand on y repense un peu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on nous dit à un moment donné qu'il est trader. Et donc on peut imaginer qu'il a beaucoup d'argent et tout, sauf qu'il ne travaille jamais. Et en plus, bizarrement, il entre dans le stand-up pour faire du stand-up, pour avoir un coup gratis, parce qu'il n'a même pas sur lui $15. Alors, un trader qui n'a pas les moyens de payer.
Non, mais il n'y a pas d'espèces.
Oui, bah alors j'imagine qu'au Comedy Club, il y a un TPE.
On ne va pas débattre sur la question. Nous n'allons pas débattre sur la question.
J'ai trouvé que c'est un film qui est très étrange parce qu'il passe du drame aux ficelles du vaudeville par moment. Il y a ces moments où les gens se dissimulent ou se cachent qui sont assez drôles. Et cette alternance de scènes tristes et drôles m'a beaucoup séduit.
Charlotte.
Mais moi, je suis un peu entre vous tous. Là, je vais jouer le Quai d'Orsay. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, en effet, je rejoins Pierre. Il se passe quand même vraiment rien. Et l'ennui, pour moi, a commencé à s'installer. Et en même temps, je trouve qu'il y a une douceur dans le film, il y a une mélancolie qui est peu commune. Le film, au début, me faisait penser, je sais pas si vous vous souvenez de ce film Marriage Story de Noah Baumbach, sur une crise de couple comme ça, sauf que dans Marriage Story, ça n'était que amertume, rancœur, reproche, et là, pas du tout. Chacun des deux accepte sa part de responsabilité et pose la question finalement de l'épanouissement personnel qui doit trouver une réponse individuelle et non pas au sein du couple. En gros, il s'agit du plaisir d'être soi avec ou en dépit de l'autre. Et ça, je trouve ça assez beau. Et finalement, le charme des comédiens a opéré, cette nuit new-yorkaise. Mais on est plus dans un film, je trouve, très des années 90 ou 2000 que véritablement actuel.
Une participation du public pour Is This Thing On de Bradley Cooper. Bonjour.
Bonjour. Alors moi je suis allée voir ce film en soirée vers 22h et j'avais un petit peu des attentes au vu de toute la publicité que j'avais pu voir dans le métro, dans la rue. Et en fait j'ai trouvé que c'était un bon film, mais un bon film du jeudi soir. On a besoin d'un...
Enfin... Alors vous étiez allée quel jour?
je ne sais plus, c'était en début de semaine. Mais on s'attend un petit peu, selon moi, à cette fin. C'est... Voilà, j'étais un petit peu déçue.
Merci. Une autre intervention pour ce film ? Vraisemblablement non. On termine donc avec Couture, cinquième film d'Alice Vinocourt, notamment réalisatrice de Proxima ou Revoir Paris. Angelina Jolie et Maxine, une cinéaste américaine de films d'horreur, qui débarque à Paris pour répondre à une commande, réaliser le clip d'ouverture d'un défilé haute couture. Tandis que Maxine apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, le film nous fait entrer dans les strates du milieu de la mode avec le personnage d'une jeune mannequin qui a quitté le Soudan, d'une couturière qui doit assembler sa robe et d'une maquilleuse qui aspire à devenir écrivain. Au milieu de ce quatuor féminin, deux acteurs, Louis Garrel en assistant réalisateur et Vincent Lindon en chirurgien. En plus de tenir le rôle principal, je précise qu'Angelina Jolie est aussi coproductrice du film. Christophe.
Bah, c'est-à-dire que, si je peux me permettre un très mauvais jeu de mots, c'est un film un peu décousu. Non mais elle était facile, fallait la faire un jour, voilà, c'est fait. C'est-à-dire que c'est un film choral, mais en même temps, c'est Angelina Jolie qui bouffe tout. C'est elle qui emporte le morceau, et c'est vrai que ça déséquilibre un peu la chose. Alors en plus, c'est assez dur, parce qu'on saura tout sur la chimio, les opérations, le cancer du sein. Alors je précise qu'elle a beaucoup de chance, puisqu'elle est suivie par Vincent Lindon, donc évidemment, ça, c'est bon pour elle. Mais après, je dirais que... Ce qui m'a gêné davantage peut-être, c'est que le film a une dimension morale et politique, parce qu'il veut dénoncer l'exploitation des femmes dans le milieu de la mode, mais c'est à mon avis trop lent, et c'est beaucoup trop didactique, c'est beaucoup trop appuyé, ça veut trop dire ce que ça veut dire. Il y a une phrase qui consiste à dire plus ou moins à un moment donné, les mannequins, enfin, elles parlent d'elles, elles disent, elles brûlent leur jeunesse sur les podiums. Alors c'est vrai qu'on peut dénoncer effectivement, après tout, c'est une réalité, cette exploitation des femmes et des hommes parfois dans le milieu de la mode, mais enfin, à l'heure où tant de guerres éclatent, la souffrance des mannequins qui ont des ampoules, ça paraît un peu dérisoire.
Pierre ?
Moi, j'aime bien le film, parce que je trouve que les personnages sont peut-être pas tous de force égale, mais ce qui me plaît, comme toujours chez cette réalisatrice, c'est la tendresse du regard. Il y a par exemple une scène dans un hôtel, où il y a Louis Garrel et Angelina Jolie qui sont arrivés là, et puis brusquement, ça ne va pas dans le sens où tout le monde s'attend à ce que ça aille, et brusquement, il y a Angelina Jolie qui pose cette question un petit peu étrange, sommes-nous responsables de ce qui nous arrive ? Et brusquement, la scène devient, mais non, très très belle, très très émouvante, avec cette réponse que Louis Garrel fait, ben, je te fais confiance, voilà. Il y a vraiment une tendresse et une chaleur sur les personnages qui me touchent beaucoup.
Charlotte.
Oui, une tendresse, et puis il y a quand même une élégance de la mise en scène. Le film est très beau, très sensible. En fait, on voit très bien les intentions de la réalisatrice d'explorer le corps féminin dans tous leurs états, c'est-à-dire qu'il soit sublimé sur un podium, camoufler les petites blessures, ou un corps meurtri, malade, via le personnage d'Angelina Jolie. Mais toutes ces pistes narratives s'entrelacent pas si bien que ça, et comme le disait Christophe, le personnage d'Angelina Jolie vampirise un petit peu le récit. Il faut dire qu'elle est sublimement filmée, elle est magnifique, même si elle reste assez mystérieuse et énigmatique pour moi. Dans toutes leurs déclarations en interview, elle disait qu'elle s'était livrée comme jamais. Alors, on le comprend vu l'écho personnel du sujet sur le cancer du sein, mais elle reste pour moi assez mystérieuse. Mais tu citais cette scène avec Louis Garrel, je vais en citer une autre où ce personnage est à l'hôpital et engage la conversation avec une autre patiente qui est là, qui est Aurore Clément. Oui. Et là, il y a un face-à-face bouleversant. Oui. Et je trouve que pour certaines scènes comme ça, le film est une très grande réussite.
Muriel.
Moi, je trouve que la vraie curiosité du film, et ça arrive de plus en plus dans le cinéma français, c'est prendre une star hollywoodienne et la plonger dans le système du cinéma français. Et moi, ça, c'est ça qui m'a vraiment intéressée. C'est en fait, on n'avait pas prévu de voir Vincent Lindon jouer avec Angelina Jolie ou Angelina Jolie coucher avec Louis Garrel. Bon, pardon, je spoil, mais on se parle.
Oh là 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 là.
Et donc, ça m'intéresse toujours. Et de fait, il y a un côté extraterrestre. Déjà chez les stars américaines, mais surtout chez Angelina Jolie, il y a un côté E.T., c'est-à-dire vraiment, elle débarque. Et on voit que acteur français, acteur américain, c'est pas la même peau, hein, c'est pas la même forme de vie, on va dire. Le problème, c'est quand le scénario vient s'écraser comme ça sur toute cette énergie. Les acteurs sont superbes et vient un peu ranger un peu le film. Et il est trop sursignifiant, c'est-à-dire qu'on a compris la solidarité féminine, la résilience. Enfin, tout va dans la même direction. Alors que ce qui est intéressant, c'est justement cette énergie un peu brouillonne et ces rencontres entre les acteurs qui sont hyper bien choisis. Donc, le film est partagé. J'ai beaucoup pensé évidemment à Prêt-à-porter de Robert Altman qui avait fait cette grande fresque sur le milieu de la mode, et oui, sur le film frise des endroits de mièvrerie ou de discours dont on aurait pu se passer.
Mais c'est pas un film sur la mode. Il se passe dans ce milieu-là, mais c'est un décor.
Mais la fin est quand même, je n'en dis pas ce que c'est, mais la fin est assez surprenante.
Ce sera le mot de la fin de cette tribune. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite intervenir pour Couture d'Alice Vinocourt ? Oui, bonjour.
Bonjour. Alors moi, c'était pour dire que j'avais pas été gâté parce que je suis allé voir Marty Supreme et le lendemain Couture. Et donc après l'espèce de film école de commerce, donc ça coûte cher, c'est très manichéen, les losers, les winners d'un côté. Et puis bon, voilà, quelque chose qui brasse beaucoup de vent, Couture. Et donc là, on retrouve un manichéisme avec la futilité, la légèreté du monde de la mode, et puis quelque chose de grave, la maladie. Et donc, bon, encore quelque chose qui manque de nuances, qui manque de complexité, et qui, à mon sens, ne fonctionne pas du tout. Alors Angelina Jolie, joue très bien, mais c'est à peu près tout ce que je retiens de ce film.
Une autre intervention pour Couture ? Non ? Alors, virgule. Voici venue l'heure de vos coups de cœur et on commence avec toi, Pierre, où tu vas nous parler d'une sortie en salle.
Je vous propose de rester dans le milieu gay. Alors après Pylione, qu'on a aimé, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Le son des souvenirs. Alors c'est rigoureusement l'inverse.
C'est pas Sadomaso ?
Pas du tout Sadomaso. C'est romantique, sensible, sensuel. Alors c'est un film d'Olivier Hermanus, d'après une nouvelle, paraît-il, formidable que j'ai pas lue, mais on m'a dit que c'était formidable, de Ben Chattuck. Et ça se passe donc, ces deux jeunes gens qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, vont recueillir des chansons originales dans la Nouvelle-Angleterre. J'aime beaucoup ce film, d'abord parce qu'il y a deux comédiens qu'on connaît maintenant, qui vont devenir vraiment de grandes stars. Il y a Paul Mescal, qu'on vient de voir dans Hamlet, et Joss O'Connor, qu'on vient de voir dans The Mastermind. Mm-hmm. Et ils sont vraiment épatants tous les deux. Et j'aime surtout ce film, peut-être parce qu'il me rappelle l'univers d'un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Terence Davis. C'est-à-dire Terence Davis aussi filmait des jeunes gens. Il filmait avec une sophistication qui pouvait en agacer. Moi, la sophistication au cinéma, ça m'a jamais gêné. Et surtout, c'était l'importance de la musique. C'est-à-dire qu'il filmait, et là, Hermanus filme la même chose, des gens qui chantent des vieilles chansons, et dans ces chansons deviennent leur consolation, leur refuge.
Voilà. Ce qui fait penser à Alan Lomax, par exemple.
Voilà. Mais c'est un film qui m'émeut beaucoup.
Le son des souvenirs, donc, d'Olivier Hermanus. Charlotte.
puisque l'Iran est malheureusement à la une de l'actualité, on va dire qu'il n'y a pas que Jafar Panahi comme cinéaste iranien, il y a aussi Saïd Roustaï qui vient de sortir Woman and Child. Il avait réalisé La loi de Téhéran et Leïla et ses frères, peut-être que vous l'aviez vu. Là, c'est son nouveau film qui était en compétition au Festival de Cannes, histoire d'une infirmière qui élève seule ses deux enfants. Elle s'apprête à épouser son fiancé, mais il va y avoir un accident tragique qui va bouleverser ça et remettre un peu tout en question. Alors, pour être tout à fait honnête, je trouve que ce film-là est un peu moins fort que ces deux films précédents. Il y a une succession d'événements dans le scénario. Ça ressemble un peu à des coups de butoir, mais il y a encore une fois un personnage féminin extrêmement fort et d'autant plus fort qu'il est complexe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas si irréprochable. Elle a des comportements qui décontenancent un petit peu le public. On a parfois du mal à la suivre et je trouve cette complexité très intéressante. Et en gros, il va évidemment être question de la réputation, du patriarcat et de son oppression. Et on avance vers une scène finale que je trouve magnifique et qui ouvre sur l'avenir de l'Iran avec la question de l'éducation, de comment on élève un garçon aujourd'hui en Iran pour qu'il devienne un homme bien.
Allez donc voir Woman and Child. Christophe.
Moi, je voudrais rendre hommage à la plateforme Arte, parce qu'elle diffuse en libre accès jusqu'au 28 décembre 2026 l'intégrale de la série Twin Peaks.
Une nouveauté.
Mais c'est vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement fort, qui a beaucoup compté dans mes amours télévisuels et cinématographiques. Surtout la saison de 2017, vous savez qu'il y a trois saisons, il y a une saison 1990, 1991 et 2017. Et la saison 2017, c'est vraiment le testament esthétique de David Lynch, et on voit à quel point ce grand cinéaste qui nous plonge quasiment dans l'art contemporain héritait de Jean Cocteau et du Testament d'Orphée.
Twin Peaks, donc en accès libre sur la plateforme arte.tv. Et Muriel ?
Alors moi, c'est The Cruise de Bennett Miller, qu'on connaît pour ses films hollywoodiens, Le Stratège, Truman Capote, ou dernièrement, enfin il y a quelques années déjà, Foxcatcher. C'est son premier film, son premier documentaire que sort pour la première fois en France, les films du Camélia. C'est un documentaire d'1h15 qui suit Timothée Levitch, un guide touristique qui officie sur un bus impérial qui le voit entre les grandes artères de New York. Alors faut le dire très nettement, c'est un personnage absolument extraordinaire, absolument bouleversant, qui tient du philosophe, de l'historien, du poète, et c'est vraiment un artiste qui semble connaître la ville, mais à la pierre près. Et le film est vraiment dépose un regard complètement amoureux sur ce personnage qui vraiment compare la façade d'un bâtiment à l'orgasme d'une femme, qui a l'air de communiquer avec les ponts et les gratte-ciel. On est en 98. Donc c'est aussi l'histoire d'un New York avant le 11 septembre. La ville est souvent filmée depuis les années 80 comme le décor d'une ascension fulgurante, voilà, de le lieu absolu d'une sorte d'hubris économique. Et là, vraiment, on retourne sur terre auprès de la classe ouvrière qui fait fonctionner la ville. Et ce qui est très beau, c'est que le film déploie à la fois les conditions matérielles de ce personnage qui est exploité et écrasé par la ville et accepte sa vie de marginale, mais quand même dans une ville qui l'épuise. Et en même temps, il arrive toujours à déposer un regard contemplatif et amoureux absolument extraordinaire sur cette ville qu'il aime et qu'il hait en même temps.
The Cruise, donc, de Bennett Miller. En salle en ce moment, Muriel Joudet, Charlotte Lipinska, Pierre Murat, Christophe Bourseiller. Merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. La semaine prochaine, nous débattrons de l'actualité de la scène. Giraud a réalisé l'émission avec Alexandre Martin, Romain Lenoir et Gilles Gaillard. Aujourd'hui, merci à Elinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation avec l'aide de Lilou Gutmann. Rendez-vous dimanche pour de nouveaux débats critiques et sur France Inter, évidemment.